on est bien en osmose sur osmose-radio.fr et j'accueille Sophie Joly.
Bonjour.
Bonjour Sophie, qui vient nous parler de la pièce qui s'appelle, enfin le spectacle musical, hein, plus précisément, qui s'appelle Mademoiselle Gabrielle Chanel. Alors ça se joue à 14h40 tous les jours au Théâtre de la Condition des Soies. Et ça dure 1h20 et vous avez un jour de relâche ?
Pardon ?
Vous avez un jour de relâche ?
Le lundi.
Le lundi.
Mais demain, mardi, la générale est publique.
Très bien. Voilà. Donc vous êtes l'auteur des textes de ce spectacle. La mise en scène, y a deux personnes qui s'appellent Hélène et Marie, c'est ça ?
Alors, Hélène Darche et Marie Simon.
Et vous êtes un certain nombre à jouer.
Oui, donc c'est un spectacle sur la vie de Chanel. Mm-hmm. Une évocation de sa vie, parce que Chanel a eu une vie très riche, très dense. Elle a rencontré un nombre incroyable de personnalités qui sont restées vraiment des gens connus encore maintenant. Donc, dans la littérature, dans la peinture, dans la couture évidemment, en passant par Cocteau, Diaghilev, etc. Enfin bon, donc il a fallu choisir un peu, tailler dans le vif pour faire 1h20 de spectacle sous forme de tableaux qui sont pas dans l'ordre chronologique et qui nous montrent des périodes phares de sa vie et au global, on arrive à reconstituer son parcours et sa vie. Et donc pour cela, effectivement, 5 comédiens chanteurs sur scène, 2 Chanel, c'est un peu la particularité du spectacle, une Chanel qui incarne les aventures de Coco, et la vie de Gabrielle, donc jusqu'à ses 40 ans, on va dire. Et puis une Chanel intemporelle et plus âgée, qui, sur la deuxième période de sa vie, et qui a également une fonction de un peu de recul sur sa vie, des points de vue qu'elle donne sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a rencontré, ce qu'elle a croisé comme échec. Comme réussite aussi bien personnelle, affective que professionnelle. Et puis les 3 autres comédiens chanteurs, donc 2 garçons et une comédienne et 2 comédiens, incarnent tous les autres rôles. Donc beaucoup de changements de costumes, des tableaux qui changent d'époque très rapidement, et un musicien sur scène, un pianiste, Guillaume Ménard, qui accompagne le tout, donc, puisque les scènes sont ponctuées parfois de chansons, ou de polyphonie, de chœur, et de temps en temps, il y a des transitions musicales, voilà.
Oui, parce qu'en fait, on n'est pas dans une narration d'une biographie,
non.
On n'est pas dans quelque chose de, je dirais, une reconstitution historique.
Alors, c'est historique dans le sens où les faits, c'est un spectacle qui a été très documenté, enfin qu'on a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'iconographie, beaucoup de documents qu'on a lus, qu'on a compulsés pour faire donc tout ce qu'on raconte est vrai, mais ça ne se veut pas un spectacle historique. C'est plus une évocation de la personnalité, cette personnalité très clivante, avec aussi ses fêlures, parce qu'on parle toujours d'une Chanel forte, impulsive, autoritaire, cassante, acariâtre, ce qu'elle était aussi et surtout à la fin de sa vie, enfin de plus en plus. Mais cette femme, malgré tout, a aussi ses fêlures, ses faiblesses. Elle est entourée toute sa vie de tas de personnalités, de tas de gens, mais elle vit dans une solitude extrême, une solitude affective, amoureuse extrême, parce que elle a jamais, en fait, les amours de sa vie sont toujours soit partis, soit décédée prématurément, et donc elle est orpheline, elle perd sa mère à 12 ans, son père la place chez une tante où elle est domestique, et puis par le biais de rencontres, elle s'installe à Moulins à 20 ans, et là elle s'essaye au cabaret, au music-hall avec sa copine. Et elle n'a pas beaucoup de succès, si ce n'est auprès des chasseurs à cheval, puisqu'il y a un régiment de chasseurs à cheval qui est installé là. Et là, elle commence à rencontrer Étienne Balzan, entre autres, qui est très riche, qui est jockey, qui est d'une très bonne famille et qui est très sensible à son excentricité. Est-ce que c'est une... Elle est brillante, mais elle n'a pas les codes. Et en fait, il aime ça, lui. Il aime cette fille qui arrive, qui débarque au champ de course avec un manteau et un pantalon, alors que toutes les femmes sont hyper bien habillées et qui crie « Ouais, c'est ton cheval !» Voilà. Bon. Donc, il aime ça. Ouais. Et puis, bah, du coup, il la prend un peu sous son aile et il l'emmène chez lui en région parisienne, à Royal-Lieu, qui est près de Compiègne, où elle va, comme elle le dit elle-même, elle va s'emmerder, en fait, parce que en fait, il n'y a rien à faire, là, si ce n'est des fêtes avec des demi-mondaines, et puis du cheval, parce que lui est jockey, il fait toutes les courses. Alors, elle apprend à monter à cheval, elle monte très très bien, elle adore le sport, donc elle fait énormément de sport, donc... Déjà très avant-gardiste pour l'époque.
Oui, parce qu'on se remet dans
et du coup, l'époque. Elle s'aperçoit, entre autres, que les robes, ça ne va pas pour faire du sport. Et donc, elle invente tout un tas de tenues en piquant les affaires de son amant et en les transformant, etc. Et elle lui demande de lui prêter sa garçonnière à Paris pour faire un atelier de chapeaux. Parce qu'elle commence par des chapeaux. Et comme Étienne Balzan est très ami avec une comédienne très connue, une comédienne parisienne qui s'appelle Émilienne d'Alençon, elle se rencontre et Émilienne tombe amoureuse des chapeaux de Chanel, qui sont des chapeaux très simples, alors que les chapeaux des femmes, là on est en 1903, elle a 20 ans. Donc les chapeaux sont choucroutés. Elle fait des chapeaux très simples. Et donc Émilienne va faire la couverture d'un magazine d'illustration donc très connu à l'époque. C'est un peu comme si on faisait la première de la couve de Elle ou je ne sais pas, Paris Match, enfin je ne sais pas, avec un chapeau de Chanel. Et le sous-titre, c'est Madame Émilienne d'Alençon avec un chapeau Chanel. Et du coup, là, toutes les comédiennes parisiennes viennent acheter les chapeaux et ça démarre un peu comme ça.
C'est l'influenceuse de l'époque, finalement.
C'est ça. Alors... on ne montre pas que ça dans le spectacle parce que Chanel a quand même des grosses zones d'ombre aussi, notamment pendant la guerre de 40 où elle est la maîtresse d'un nazi, d'un allemand nazi et après la guerre elle continue à le fréquenter, etc. Elle est soupçonnée de collaboration. Elle est arrêtée, elle est interrogée donc elle s'en sort parce qu'elle part en Suisse et qu'elle a des appuis, notamment Churchill l'a fait libérer, mais voilà, elle a des grosses zones d'ombre qu'on montre également. Donc c'est un portrait qui est pas
lisse.
qui n'est pas lisse et qui n'est pas complaisant. C'est-à-dire qu'à la fois elle a un génie créateur incontestable, elle a libéré la silhouette des femmes avec des tenues légères, souples. Elle a inventé les poches pour les femmes.
Ah oui.
Pour pouvoir mettre des clés, des choses dans les poches, sans avoir des sacs, des trucs, des machins.
D'accord.
Voilà, donc là-dessus, voilà, elle est absolument extraordinaire. C'est une femme d'affaires incroyable, qui a très, très, très brillante et qui a appris tous les codes qu'il fallait. Donc, beaucoup d'humour, un humour un peu grinçant, mais voilà, beaucoup de charme. Et puis, malgré tout, beaucoup de zones d'ombre et un caractère épouvantable. Il faut bien le dire.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, c'est l'occasion de traverser plein d'époques différentes.
Oui.
Et notamment, donc, vous avez écrit les textes, mais aussi la musique.
Oui.
Donc, comment vous avez
Alors, ça a été une question, comment traiter la musique.
Ouais.
D'autant plus que Chanel a côtoyé des compositeurs très célèbres. Stravinsky était très amoureux d'elle. Bon, elle pas, mais en l'occurrence, elle a beaucoup aidé à développer le Sacre du Printemps, puisque la première fois ça a été un fiasco, et elle a fait un chèque à Diaghilev et les Ballets Russes pour qu'ils remettent en avant au Théâtre des Champs-Élysées en 1917 le Sacre du Printemps, et là ça a été un succès énorme. Elle connaissait très bien Satie, donc moi je me suis posé la question de savoir ce qu'elle écoutait et en fonction des périodes d'essayer d'écrire donc des chansons ou des musiques dans le style de, pour qu'on soit quand même raccord avec quelque chose de cohérent, puisqu'on est en costume d'époque. On passe différents, on balaye sa naissance, 1883. jusqu'à sa mort. Donc voilà, on passe vraiment dans toutes les époques. Je pense que, voilà, avec la metteur en scène, on s'était posé cette question et on s'était dit que c'est quand même aussi une intellectuelle, quelqu'un de très cultivé, etc. Et que c'était assez raccord d'essayer d'écrire dans le style de ce qu'elle écoutait et des époques.
Et des époques.
Après, tout ça est modernisé et puis c'est accompagné avec beaucoup de talent par Guillaume Ménard, qui est un pianiste qui a à la fois une formation classique et jazz et musique actuelle, donc il est capable d'avoir un panel très 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 large sur toutes ces accompagnements et toutes ces musiques. Mais voilà, il y a un petit extrait qui est de Ravel, puisqu'à un moment donné, voilà, on est pile dans la période. Et sinon, tout le reste, ce sont des musiques originales.
Des musiques originales, voilà. Ok.
Et ça chante.
Donc on voyage à travers le temps, à travers la musique, à travers les costumes, vous disiez,
oui,
des
costumes d'époque. Oui, beaucoup, beaucoup de costumes.
Également. Des personnages quand même, parce qu'on a 30 personnages.
Oui. Oui, on va des parents de Chanel sa grande amie Missia Serre, et en passant par donc ses différents amants. Donc elle en a eu beaucoup, et donc nous on en a, je sais pas, on en présente une dizaine peut-être. Jean Cocteau. Paul Morand, enfin voilà, tous ces gens qu'elle a rencontrés, qui d'autres, il y a des mannequins, il y a sa secrétaire, il y a une scène de Chanel et sa secrétaire où la secrétaire est très malmenée parce que en fait quoi qu'elle fasse, Chanel n'est pas contente et les journalistes appellent et elle les envoie balader et la pauvre secrétaire est complètement perdue. Ça c'est une scène assez drôle. On a une interview de Chanel et de Dior. Donc il y a Dior qui, parce que oui, son grand concurrent dans les années 50. Du coup, quand elle est revenue sur la scène de la haute couture après la guerre, elle est partie en exil et elle est revenue dans les années 50, 54, hein, donc 10 ans après. On rencontre qui d'autre ? On rencontre la famille de sa mère, chez qui elle a été mise en pension quand elle avait 12 ans. Et Sophie Garmila, qui incarne la Chanel enfant, ado et jeune, est aussi assez sidérante en passant dans... Enfin, elle se transforme en petite fille. C'est assez magique.
Même, ouais,
c'est
fort,
assez magique.
Ouais. De la petite fille à la jeune adulte, c'est quand même...
On a Rodier qui passe par là. On a Ernest Beau, qui est pas connu du grand public, mais c'était le nez de la cour du tsar de Russie.
Ah.
Et c'est celui qui a fait le jus du numéro 5. Donc on a évidemment une scène sur le numéro 5 où elle teste des échantillons avec Ernest Beau. On a Wertheimer qui a développé le numéro 5 au Galeries Lafayette, donc dans la grande distribution, puisque avant elle ne le distribuait que dans sa boutique rue Cambon, avec qui elle s'est fâchée et en même temps rabibochée. Enfin bon, voilà. Donc voilà, tout un panel de personnages qui passent.
Donc oui, on a les aventures de Coco, la vie de Gabriel et le destin de Chanel.
Voilà, qui est maintenant intemporel. C'est un nom universel et vraiment mondialement connu.
Tout à fait. Donc c'est Mademoiselle Gabrielle Chanel, hein, on rappelle, tous les jours.
Tous les jours à la condition des soies à 14h40. Je ne sais pas si on voit l'affiche.
On le met sur justement. D'accord. Alors, à la radio, non, on ne voit pas, mais sur Facebook et Instagram,
très bien.
On retrouve l'affiche.
Donc, 14h40, tous les jours, relâche le lundi 8 et 15, juillet. Et notre générale demain, mardi, qui est une générale ouverte au public.
Super.
Voilà.
Bah, écoutez, merci beaucoup, Sophie.
Merci à vous.
Très bon festival.
Vous aussi, merci.